Bonjour à tous, nous sommes Lou et Mathéo et aujourd'hui nous allons vous parler de Brigitte Macron, de luxe ainsi que de soft power. Pour cela, nous avons décidé de revenir avec vous sur l'événement de l'année dans la sphère politique. Le 6 mai dernier, le nouveau souverain des Britanniques Charles III a été couronné en l'abbaye de Westminster. Pour l'occasion, Buckingham Palace a adressé une liste d'invités. Un événement réunissant 2300 invités, trié sur le volet 70 ans après celui de sa défunte mère, une liste restreinte par rapport aux 8000 invités du couronnement de la reine Elisabeth II. Plusieurs têtes couronnées comme Philippe VI et Laetitia d'Espagne, le roi et la reine de Belgique ainsi qu'Albert II et Charlène de Monaco étaient bien évidemment présents pour cet événement mémorable. Des célébrités comme Katy Perry et Lionel Richie qui ont également chanté au concert organisé pour l'occasion au château de Windsor le lendemain, le dimanche 7 mai. Et, outre les têtes couronnées, étaient présents des chefs d'État et de gouvernement venus des quatre coins du monde, comme les premiers ministres canadiens et australiens, le président allemand Frank Walter, ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. En revanche, Joe Biden n'a pas fait le déplacement jusqu'à Londres pour le couronnement. Jamais un président américain n'a fait le déplacement pour un tel événement. C'est l'épouse du président et sa petite-fille, Jill Biden, qui était là pour représenter le pays.
Et bien sûr, au cœur de notre sujet, le couple présidentiel français a reçu son invitation et a répondu présent. Certes, ils se sont présentés au plus proche de l'hôtel où Charles III se verra couronné avec la couronne de Saint-Édouard, créée pour le couronnement de Charles II en 1661. En effet, notre président et son épouse ont pris place dans le fameux coin des poètes situé dans le transept sud de l'abbaye, un lieu très symbolique puisque c'est ici que de nombreuses figures de la littérature britannique y ont trouvé leur dernière demeure. Pour l'occasion, la première dame, Brigitte Macron, a opté pour un ensemble rose poudré signé Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton, une maison de couture à laquelle elle fait confiance pour la plupart de ses engagements officiels. Brigitte Macron a misé sur l'élégance et sur la douceur. Elle portait donc une robe droite, rose poudrée et un manteau assorti. Niveau coiffure, la première dame avait opté pour un chignon soigné. Sur Twitter, les internautes n'ont pas manqué de souligner son bon goût. Plusieurs ont souligné le fait qu'elle représentait une nouvelle fois, je cite, « l'élégance à la française ». Néanmoins, si elle incarne l'élégance française, l'épouse du président de la République n'en a pas moins désobéi à une consigne look édictée par Buckingham Palace en préférant un chignon à un couvre-chef. Je cite, « la question était de savoir est-ce qu'il fallait mettre un chapeau ? La première dame a préféré un chignon. » Commente alors Stéphane Bern en direct sur France 2. En effet, les chapeaux étaient recommandés, explique-t-il, précisant les consignes vestimentaires du jour. On a demandé aux gens de venir comme ils sont, plutôt en costume, mais plus en grand apparat, en robe longue et en queue de pie, comme c'était le cas en 1953. Il est vrai que pour un tel événement, il était évident pour Brigitte Macron de collaborer avec une maison de haute couture française. Une collaboration de longue date avec la maison qui a eu lieu bien avant qu'elle devienne première dame. Dans une enquête publiée par Capital.fr, on apprend que lorsqu'elle enseignait à Paris, au lycée privé Franklin, Brigitte Macron était la professeure de français de Frédéric et Jean, les plus jeunes fils de Bernard Arnault.
En 2014, Brigitte Macron rencontre Delphine Arnault, la seule fille du milliardaire Bernard Arnault. Les deux femmes ont sympathisé lors d'un déjeuner à New York, accompagnées de leurs conjoints respectifs. Depuis, l'épouse du président porte du Vuitton à chacune de ses sorties officielles. Et si, effectivement, la première dame arbore régulièrement de jolis looks, signés Louis Vuitton, en revanche, il s'agit systématiquement de prêts. Fondée en 1854 par Louis Vuitton, un franc-comtois qui partit à Paris pour devenir apprenti maletier, Louis Vuitton ouvre une boutique et son atelier de maletier en 1854. Cette marque parisienne va révolutionner le monde de la bagagerie avec l'invention de la malle plate, très pratique lorsque l'on voyage.
Les bagages que va créer Louis Vuitton par la suite vont continuer sur le chemin visionnaire de sa première malle. En s'inspirant fortement du monde, du voyage, la marque utilise les matériaux de grande qualité, faisant de ce produit un produit de luxe. À partir de 1885, la marque se développe à l'étranger. Cela va donc permettre l'ouverture d'un magasin à Londres et à New York. En 1987, Louis Vuitton et Moët Hennessy fusionnent pour former le groupe LVMH, le leader de luxe. LVMH est racheté en 1989 par l'homme d'affaires Bernard Arnault. La maison de maroquinerie va alors considérablement se développer sous l'impulsion de ce dernier. Et aujourd'hui, la marque fait la fierté de son propriétaire car depuis début 2023, Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde. Le groupe place notre pays numéro 1 dans l'industrie du luxe. De par son expansion à l'étranger et les fréquentes apparitions de notre première dame, Louis Vuitton est pour la France un moyen de soft power permettant de faire valoir le savoir-faire français. Donc Matteo, peux-tu nous expliquer ce qu'est le soft power ?
Le soft power sert aux États pour exercer une influence sur les relations internationales. Les États peuvent utiliser la force, mais aussi des stratégies d'influence, désignées couramment par l'expression soft power. Diffusion de sa culture ou encore économique, les moyens employés par le soft power visent à orienter les décisions des autres acteurs internationaux. De nos jours, chaque pays utilise ses atouts pour montrer leur puissance, afin de rayonner à travers le monde dans tous les domaines quels qu'ils soient. Depuis 2015, le cabinet de conseil stratégique Portland, aidé par le Centre de diplomatie publique de l'Université de Californie du Sud, réalise chaque année le Soft Power 30, un classement des pays en fonction d'un score de soft power. En 2017, ce classement est créé en associant à chaque pays un score conçu en agrégeant de nombreuses données. D'une part, des données dites objectives sont utilisées, par exemple le nombre annuel de touristes, d'articles scientifiques publiés, d'ambassades, de succès musicaux ou sportifs, ou encore l'indice de développement humain du pays. Elles proviennent de diverses sources comme entre autres l'UNESCO, Amnesty International, Facebook, le Guide Michelin ou la Banque mondiale. Ces données objectives sont utilisées pour établir un score dans chacune des 6 thèmes, la culture, le numérique, l'éducation, l'engagement, les entreprises et le gouvernement. D'autre part, des données dites subjectives sont recueillies en effectuant des sondages internationaux. Les questions des sondages demandent par exemple si un pays étranger est perçu comme attractif pour y voyager comme contribuant grandement à la culture mondiale, comme étant digne de confiance dans ses relations internationales, etc. Les 6 scores thématiques liés aux données objectives ainsi que les scores liés aux données subjectives sont pondérés dans le score final. La France fait d'ailleurs partie du top 5 chaque année.
Merci Matteo pour cette explication très claire. En résumant, le soft power est la capacité d'un pays à atteindre ses objectifs en influençant les autres par des moyens non coercitifs, tels que la culture, les valeurs et la diplomatie. Les pays qui ont un fort soft power peuvent avoir un avantage dans les relations internationales en étant en mesure de persuader les autres de leur point de vue sans avoir à utiliser la force. Pour finir, Matteo et moi, nous souhaiterions, pour clôturer cette chronique, faire une dédicace à nos parents qui nous écoutent sur cette radio, ainsi qu'à notre professeur de géopolitique, M. Turpin, et aux membres de cette association. Bonne journée à vous.